Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Je vais vous raconter l'histoire d'un tueur complètement à part dans l'histoire du crime. Jean-Baptiste Hennequin. En 1997, à Saint-Quentin dans l'Aisne, en Picardie, il a tué 3 personnes au Grand Hôtel, à 4 étoiles du centre-ville, dont 2 à coups de hache. Et ce qui fait de lui un cas à part, c'est qu'il a parfaitement assumé son crime. Il l'a même revendiqué. Et il n'a manifesté aucun regret. J'ai invité pour le débrief son avocate à l'époque, maître Anne-Laure Pillon, du barreau d'Amiens. J'ai écrit cette histoire avec O'Kiss, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Nous sommes le matin du 20 janvier 1997, un peu avant 11h. Et vous entendez? Ce sont les pompiers de Saint-Quentin, en Picardie. On vient de les appeler au Grand Hôtel, le 4 étoiles très chic du centre-ville. On leur a dit que deux clients avaient fait un malaise. Ils n'en savent pas plus. Des employés les attendent à l'entrée du hall. Ils ont l'air très tendus. Bonjour, messieurs. Venez avec moi, je vais vous emmener dans la chambre où ça s'est passé. On nous a parlé de deux personnes qui ont fait un malaise, c'est ça? Un malaise? On vous a dit ça? Je crois pas, non? Enfin, vous verrez. Les pompiers empruntent l'ascenseur, direction le 2e étage. Suivez-moi, c'est dans la chambre 101 que ça s'est passé. Les pompiers entrent dans la chambre. Mon Dieu! Mais c'est pas un malaise. C'est un meurtre, une boucherie. Un homme sur le ventre dans l'entrée, couvert de sang, le dos zébré de plaies ouvertes et la moquette autour qui a bu tout le sang du cadavre. Mais c'est pas fini. Il y en a un autre cadavre. Une femme au pied du lit, même position, même boucherie. Et à côté sur la moquette, une douille, calibre 22. Vous les connaissez, ces gens-là? Si on les connaît. Mais ce sont les patrons de l'hôtel. Léo Roupioz, 73 ans, propriétaire du Grand Hôtel, et sa compagne Gisèle Künzler, 69 ans, la gérante. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que sur chacun des deux cadavres, posés sur leur dos, il y a une feuille de papier avec un message manuscrit dessus. Sur le cadavre de Gisèle Künzler, il est écrit « Pour 5 ans d'humiliation, de diffamation, de chantage et de fausses accusations, de perpétuels acharnements à semer la discorde parmi les personnels, que cela te serve à toi et à tes semblables. » Et sur la lettre posée sur le dos de Léo Roupioz, « Pour ton indifférence, ta prétention, ton refus de dialogue, pour tes affaires douteuses et leurs victimes, que cela serve aussi à tes semblables. » C'est dingue, dingue. Chacun des deux meurtres est en quelque sorte justifié, revendiqué. C'est un règlement de compte, ça paraît clair. Les policiers d'Amiens viennent d'arriver, ça tombe bien, parce que les pompiers, qui se demandent encore pourquoi on les a fait venir, viennent d'être appelés sur un incendie dans le centre-ville, à 800 mètres de là. Et nous, et ça va vous paraître surprenant, on va laisser quelques instants les deux cadavres du Grand Hôtel et on va aller suivre les pompiers vers cet incendie. Patience, vous allez vite comprendre pourquoi.
Vous vous rendez au numéro 33 de la rue de l'Est, au 2e étage, reçu?
Reçu, on y est dans 2 minutes. Quand ils arrivent sur place, les pompiers grimpent à toute berzingue jusqu'au 2e étage. C'est ici, regarde! La fumée est sous la porte, là. Ils enfoncent la porte. C'est un studio d'environ 15 mètres carrés, totalement envahi par la fumée. Je pense que le feu s'est éteint de lui-même. Faute d'oxygène. Ouvre la fenêtre. Une fois la fenêtre ouverte et la fumée dissipée, les pompiers découvrent le studio. Un foutoir sans nom, avec sur le sol des restes de nourriture, des sacs, des vêtements et des centaines de numéros du Canard Enchaîné. Mais pas de victimes. Le studio est vide. Dis, regarde, il y a eu plusieurs départs de feu, hein. Un là, un là, un là. Ça m'a bien l'air d'être un incendie volontaire, hein. Alors, vous vous demandez pourquoi je vous ai emmené dans ce studio putride, hein? Vous, vous avez envie de revenir au Grand Hôtel, et vite. Ça vous intrigue, ces petits mots sur le dos des deux cadavres. Je vous comprends. Mais je vous promets qu'en me suivant dans ce studio crado, vous n'avez pas perdu votre temps. Et l'enquête, non plus. Dis, tu peux faire le tour des voisins, là, pour savoir qui habite ici? Un pompier va se rencarder. Et il revient avec du lourd. Bon, le locataire s'appelle Jean-Baptiste Hennequin, il aurait 61 ans. Et alors tiens-toi bien, il est veilleur de nuit au Grand Hôtel de Saint-Quentin, le gars. Veilleur de nuit au Grand Hôtel? Oh merde, il faut que je prévienne les flics, là. Enfin, c'est fou, quoi. Deux interventions dans la matinée, elles sont toutes les deux liées. Vous voyez que nous n'avons pas perdu notre temps. Allez, retournons au Grand Hôtel, parce qu'il y a du nouveau, là-bas. Deux employés ont disparu. C'est-à-dire qu'ils ont pris leur service à 7h, et ben depuis, personne ne les a vus. J'espère qu'il n'aurait pas arrivé la même chose qu'au patron. Vous pouvez me donner le nom de ces deux employés? Oui, Madame Fabrice, Michel Fabrice, c'est une réceptionniste. Et puis Philippe, c'est un garçon d'étage, un groupe, si vous voulez. Oh, j'espère qu'il n'aurait pas arrivé quelque chose à eux aussi.
Alors, les policiers se lancent dans une fouille intégrale de l'hôtel, chambre par chambre. Et quand ils arrivent au sous-sol, ils poussent une porte métallique. Et ils tombent sur un jeune garçon dans les 20 ans, livide et tremblant.
Vous êtes qui, vous?
Je suis Philippe. Je suis groom à l'hôtel.
Mais qu'est-ce que vous faites là, enfermé derrière cette porte?
Je vais vous expliquer. Ce matin, j'ai pris mon service à 7h, comme d'habitude. J'ai croisé Monsieur Hennequin à la réception.
Le veilleur de nuit, c'est ça?
Oui, le réceptionniste et veilleur de nuit. On a discuté un peu, et puis je suis monté au premier pour me changer. Je suis redescendu, et là, Monsieur Hennequin, il me parle d'une fuite au sous-sol. Il me dit, on va voir ensemble. Donc on descend. Il disait que c'était dans le local des produits d'entretien. Alors moi, je rentre dans le local, je regarde, et vlan, il claque la porte derrière moi. Moi, je trouve ça pas drôle, je lui dis de m'ouvrir. Je lui dis, on a du travail, il y a des clients qui attendent. On va se faire gueuler dessus par la patronne. Et là, il me dit, t'inquiète, les patrons, ils feront plus chier, je les ai flingués. Quoi, je lui fais? Mais la réceptionniste va demander où je suis. Et il me répond, la réceptionniste l'est flinguée aussi. Elle est par là, il me dit. Elle est dans la cave à vin.
Ok, ok. Elle est où, la cave à vin?
Venez avec moi.
Les policiers ouvrent la porte de la cave. La réceptionniste Michel Fabrice est là, la tête dans une flaque de sang. Elle a reçu une balle sous l'oreille droite. Et près du corps, il y a d'ailleurs une douille calibre 22. Trois morts, trois exécutions. Les policiers remontent à la réception.
Eh messieurs, venez voir. La caisse a été vidée. Et il y a un petit mot dedans.
Même écriture que les deux autres mots retrouvés sur le corps des patrons. J'ai pris 12 000 francs qui correspondent à ma paye et à mes congés payés.
Et puis il y a autre chose, messieurs. Venez voir le registre du personnel. Vous voyez, là, c'est la ligne qui est consacrée à la réceptionniste Michel Fabrice. Et vous voyez ce qu'il a écrit à côté? Absence définitive de l'intéressé. C'est complètement fou. C'est complètement fou.
Bon, il n'y a pas à tortiller. C'est Enka, le veilleur de nuit, c'est lui qui a tué les patrons, et c'est lui qui a tué la réceptionniste. Parce qu'il avait un compte à régler avec eux. Et il assume, le diable. En déposant ses petits papiers partout, il signe son crime. Et maintenant, il faut lui mettre la main dessus dardard. Dans le parking, la voiture de la réceptionniste n'est plus là.
Il a dû l'utiliser pour s'enfuir.
Alors pendant qu'on le recherche, il faut quand même que je vous dise comment il les a tués tous les trois. Léo Roupios, il l'a tué à coups de hache. 5 coups de hache. Gisèle Kunstler, il lui a asséné 8 coups de hache, plus une balle dans la tête. Et Michel Fabrice a été tué elle aussi à coups de hache et une balle dans la tête. Pourquoi ? Pourquoi tant de violence ? Pourquoi tant de haine ? Il n'y a que lui qui peut le dire. Les policiers vont au 33 rue de l'Est jeter un coup d'œil à son studio. Et ils constatent à leur tour que la piole est un taudé. Et regarde, j'ai trouvé une photo de lui. C'est la seule photo qu'on trouve de lui. Et on comprendra vite pourquoi. Jean-Baptiste Henquin n'a pas d'amis. Il n'a pas non plus de famille. Et ça fait belle lurette qu'il n'a trouvé personne pour le prendre en photo. En attendant, cette unique photo est bien utile. Elle permet de lancer un avis de recherche dans toute l'Europe. On cherche Jean-Baptiste Hennequin, né le 16 juin 1935 à Fresnoy-le-Grand, type européen, taille 1m80, corpulence moyenne, âge 61 ans, cheveux raides, courts et grisonnants, yeux marrons, maîtrise plusieurs langues, anglais, espagnol, japonais, polonais et hébreu. S'intéresse à la botanique et à la mycologie. Un triple meurtre à la hache dans un hôtel 4 étoiles, autant vous dire que ça passionne les journalistes, ceux du coin et maintenant ceux de Paris. Ils sont des dizaines à grenouiller en ville. Une information vient d'être ouverte pour assassinat et séquestration. Et un juge d'instruction vient d'être nommé. Mais où est-il ? Où est-il ? Des barrages routiers sont dressés. On met des policiers dans la gare. On surveille les hôtels de la région. Il a volé du cash dans la caisse. Il a les moyens de se payer un hôtel. Mais tout ça ne donne rien. Alors les policiers se rendent en carte sur le bonhomme. D'abord à l'hôtel. Oh, mais je vais pas pouvoir vous dire grand-chose sur lui. Il racontait jamais rien. Vous lui connaissiez des amis ? Non. Non, je crois qu'il n'avait pas d'amis. De la famille, alors ? Je sais qu'il a été marié, qu'il a des enfants. 3, je crois. Moi, je pense qu'il les a pas vus depuis des années, hein. Au moins 20 ans. Désolé de pas pouvoir vous en dire plus, mais je me rends compte qu'on le connaît pas, ce type. Et donc les policiers vont interroger ses voisins de la rue de l'Est. Et ils s'aperçoivent qu'Henquin était en conflit avec tout le quartier. Bon, je peux vous dire qu'on a rencontré des tas de gens qui l'aiment pas, hein. Ils m'ont tous à peu près raconté la même chose. Comme il travaillait la nuit, forcément il dormait le jour. Et du coup, d'après ce qu'ils disent, il gueulait contre tout ce qui l'empêchait de dormir. Il y en a un qui m'a raconté qu'il nourrissait les pigeons, et ben l'autre gueulait parce que les pigeons roucoulaient dans la cour. Et puis j'ai vu aussi un psychiatre qui a son cabinet juste à côté. Il m'a dit qu'Henquin gueulait contre les enfants qui pleuraient dans son cabinet. C'est vous dire si le gars est irascible. Et alors le pire, c'est les chiens. Donc d'après ce qu'on me raconte, il supporte pas les clébards. On m'a raconté qu'il avait giflé une femme qui avait un chien. Et alors qu'il a harcelé un propriétaire de chien en l'appelant au téléphone toutes les nuits pendant des mois. Bref, vu comment les gens l'aiment pas dans son quartier... À mon avis, il n'est pas prêt d'y revenir. D'après les premiers retours, il n'y a pas que les chiens qui ne supportent pas. Il y a quelques années, il a travaillé dans un autre hôtel de Saint-Quentin. Oh ben moi, je l'ai employé comme réceptionniste. Oh, il était épouvantable, épouvantable. Il supportait pas qu'on lui donne un ordre. Il supportait pas qu'on lui fasse une remarque. Il avait toujours raison. J'ai dû m'en débarrasser, quoi. Alors, il nous a collé au prud'homme. Bon, il a perdu, hein. Mais attention, ne prenez pas Jean-Baptiste Henquin pour un imbécile. Tout le monde raconte qu'il est très érudit, très cultivé. Oh, ben, je crois qu'il a travaillé pendant quelques années pour un lord, je crois, en Angleterre. Ben, du coup, il parle vachement bien anglais, quoi. Je crois même qu'il donnait des cours d'anglais. Et puis, je l'ai entendu plusieurs fois à la réception. Il parlait très bien espagnol aussi. Très bien japonais, et même hébreu.
Alors qu'il n'était pas juif, hein. Enfin, je crois pas.
Il aime aussi la botanique, d'après ce qu'on dit. Les fleurs, les arbres et les feuilles. Il passait sa vie dans un grand parc à l'entrée de Saint-Quentin. Bon, faut mettre le parc sous surveillance, hein, au cas où. Les policiers mettent le parc sous surveillance. L'assassin à la hache reste introuvable. Alors, il reste à comprendre pourquoi il a réservé un sort aussi radical au patron du Grand Hôtel, à sa compagne et à la réceptionniste. Et les réponses, forcément, on les trouve à l'hôtel. Monsieur Roupios, le propriétaire, j'avoue que je comprends pas. Hein. Il n'y avait pas de conflit avec lui. De toute façon, Monsieur Roupios, il était quasiment jamais là. Par contre, Madame Künstler, oui. Oui, avec Madame Künstler, il se prenait la tête tous les jours. Et d'ailleurs, Monsieur Roupios avait fini par lui envoyer un avertissement. Il voulait qu'il s'excuse auprès de Madame Künstler. Mais bon, Jean-Baptiste s'excuser, c'est pas trop son truc, mais c'est pas tout. Il faut que vous sachiez que Monsieur Roupios lui avait envoyé un courrier recommandé en lui disant qu'il songeait à le mettre à la retraite. Moi, je pense que c'est ça, hein, qu'il a pas supporté. Vous savez, Jean-Baptiste, à part l'hôtel, il a pas de vie. Hein. Enfin, je crois pas. Et cette lettre recommandée qu'il lui avait envoyée, ça date de quand? De quand? Mais il y a 6 jours, je crois, oui, c'est ça. Et alors, Madame Fabrice, la réceptionniste, il avait un problème avec Madame Fabrice? Un problème? Pas vraiment, disons que le problème, c'était qu'elle faisait le même métier que lui, quoi. Et donc, forcément, à son point de vue, elle le faisait beaucoup moins bien. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il avait une haute opinion de lui, Jean-Baptiste. Et puis, Madame Fabrice, c'était un peu la chouchou de Madame Künstler. Il l'appelait l'œil de Moscou. Donc, Hennequin aurait tué ses deux bosses parce qu'il voulait le mettre à la retraite, et la réceptionniste, Madame Fabrice, parce qu'il était jaloux d'elle.
Bon, si on veut mettre la main sur ce type, il faut se rencarder très vite sur lui. Il est né à Fresnoy-le-Grand. C'est à quoi, 15 000 km de Saint-Quentin, ça? Je vais demander aux gendarmes de là-bas de mener une petite enquête sur place.
Alors vous allez voir, c'est gratiné. Alors d'abord son père, on nous a décrit un colosse, un type 1m90 avec une grande barbe et une cape, un type qui passait la majorité de son temps au bistrot, hein, qui était fâché avec tout le monde, le maire et même l'instituteur. On nous a raconté qu'il allait chanter l'international sous ses fenêtres, vous voyez, le bonhomme quoi. Et vous savez quel surnom il lui avait donné dans le village?
Non, mais allez-y.
Landru. Il l'appelait Landru.
Landru? Mais pourquoi donc?
Eh bien, parce que figurez-vous que sa femme a disparu du jour au lendemain, juste après la naissance de leur fils Jean-Baptiste. C'était en 1936. Et donc, les gens ont toujours pensé que c'était lui qui l'avait tué. Et voilà pourquoi donc il l'appelait Landru, sans que d'ailleurs il ait jamais été prouvé qu'il avait vraiment tué sa femme.
Donc, Jean-Baptiste Hennequin a grandi sans maman, hein? Le père, il est toujours vivant?
Non. Il a aussi vécu son père, c'est-à-dire que son père est mort quand il avait 5 ans. Un accident de voiture. Et donc lui et ses deux sœurs ont été placés en famille d'accueil à la DAS, mais pas ensemble, hein, d'après ce qu'on nous a dit, séparément.
Et après, l'adolescence, tout ça, vous avez des infos?
Oui. Il a changé plusieurs fois de famille d'accueil. Et puis, on nous raconte qu'il a dû arrêter l'école à 14 ans. On nous dit qu'il était d'ailleurs très brillant au collège et qu'il était resté très amer, hein, de ça, de ne pas pouvoir poursuivre ses études, quoi.
Ah oui, on a donc un atavisme très lourd, un père irascible, violent, possiblement meurtrier de sa femme. Les chats ne font pas des chiens. Et puis on a aussi un gros trauma. La disparition de sa mère, la mort de son père, les familles d'accueil qui s'enchaînent à la DAS, l'obligation d'arrêter l'école, alors qu'il avait envie de faire des études. Le jeune Jean-Baptiste Hennequin s'est lancé dans la vie avec un gros sac à dos sur les épaules.
Mais c'est pas tout, hein. Donc, après, il s'est marié, il a eu 3 enfants, et puis il a divorcé. Et là, il est entré en conflit avec sa femme au sujet d'une voiture qui se disputait. Et il l'a étranglée. Je suppose que vous saviez ça par le fichier, non ?
Ouais, on est au parfum. Sa femme a survécu, hein, c'est ça ?
Oui, voilà. Et donc pour ça, il a été condamné à 3 ans de prison. Et depuis, il n'a jamais revu ni sa femme ni ses enfants.
Et puisqu'on en est à fouiller dans le fichier à la page Hennequin, il a une autre affaire sur le dos. En 1985, il se promène au bois de Boulogne, à Paris. Il s'embrouille avec un travesti. Il sort un pistolet et bam, il lui tire dans la tête. Le travesti perdra un œil. Et pour ça, il a pris 3 ans de prison, dont 1 an ferme seulement. Et de tout cela, bien sûr, personne n'était au courant au Grand Hôtel. On vient de retrouver la polo de la réceptionniste avec laquelle il s'était enfui, à Amiens, près de la gare. Et là, 2 hypothèses. Soit il a pris le train pour Calais, et possiblement après pour l'Angleterre, soit il a pris le train pour Paris. Bon, on a du nouveau. Il aurait été repéré à Paris par plusieurs témoins, après l'avis de recherche publié dans le journal. Donc une première fois dans le Marais, et puis une seconde fois près de la place Saint-Michel. Bon, après, on sait ce que valent ce genre de témoignages, hein. Il suffit qu'on cherche quelqu'un pour que les gens le voient partout. On connaît la musique, hein. Quatre mois après le triple meurtre, le gérant d'un petit hôtel de la Porte Saint-Martin à Paris appelle le commissariat du 10e arrondissement.
Voilà, on m'a volé ma recette. 5 000 francs. Ils étaient dans une enveloppe et moi je pense que ça peut être qu'un client de l'hôtel, hein, qui a fait le coup.
Ok, on vous envoie un équipage, hein. Les policiers fouillent l'hôtel chambre par chambre. Et dans l'une d'elles, il tombe sur un type d'environ 60 ans. « Vous vous appelez comment, monsieur ?»«
Je m'appelle Dampierre. »«
Jean Dampierre. »«
Bien, monsieur, on va fouiller vos affaires. »«
Non, mais ça va pas. Vous n'allez pas toucher à mes affaires. » »«
Bah si. » Il fouille toute la chambre.
Et à un moment...
« C'est quoi ça, monsieur ?»«
C'est un pistolet mitrailleur M16, hein ?»«
Eh ouais, parfaitement. »«
Bah, j'ai déjà été agressé. » J'ai le droit de me défendre.
Se défendre avec un M16. Mais c'est pas tout. Les flics tombent aussi sur une carte orange du métro parisien.
Dites, monsieur, elle n'est pas votre nom, cette carte ?
Jean-Baptiste Hennequin. Et voilà comment, 4 mois après le triple meurtre, Hennequin se fait pincer.
Transféré à Amiens, Jean-Baptiste Hennequin reconnaît immédiatement les faits.
Mes patrons, c'était des salauds. Ils n'ont eu que ce qu'ils méritaient. Ils me respectaient pas. Alors que moi, je faisais mon travail mieux que quiconque. Sur les 4 étoiles, un bel grand hôtel, ils m'en devaient au moins 3. Parce que sans moi, ils auraient eu un petit hôtel merdique. Alors me faire des reproches et m'envoyer à la retraite forcée, franchement, c'était pas juste, hein.
La disproportion entre la violence de ces 3 meurtres et les motivations d'Hennequin, c'est stupéfiant. Jean-Baptiste Hennequin est jugé en juin 1999 devant la cour d'assises de l'Aisne. Il a 64 ans. Il se présente dans le box droit comme un i, en costume 3 pièces. Son regard est glacial. Et on va être clair, hein, il a reconnu les faits, il va prendre perpète. Et d'ailleurs, à aucun moment, il ne revient sur ses aveux. Ce qui l'intéresse, lui, c'est de parler encore et encore des humiliations qu'il a subies à l'hôtel.
Il s'acharnait contre moi, alors que j'étais un bon employé. Très bon même.
Il ne cherchait qu'à me faire des reproches et à me vexer. Et il voulait m'envoyer à la retraite. Vous vous rendez compte? Avec tout ce que j'avais fait pour eux? Dois-je comprendre, monsieur Hennequin, que vous n'avez pas de regrets? Ah non, je n'ai aucun regret. Vraiment pas. On évoque évidemment son histoire personnelle douloureuse, sa mère disparue, son père mort dans un accident de voiture, son errance de famille d'accueil en famille d'accueil dans sa région, l'étranglement de sa femme et le coup de pistolet tiré dans l'œil du travesti. Et puis on se tourne vers lui et on lui demande de parler de lui. Ça ne m'intéresse pas de parler du passé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler des coupables, des vrais coupables, de ceux que j'ai tués. Ce type est un psychopathe de première bourre. Et du coup, on aimerait bien avoir l'avis d'un expert psychiatre. Sauf que lui a refusé de se soumettre à l'expertise. Il a envoyé bouler les psys. Et donc, on ne peut se rabattre que sur une vieille expertise de 1985, au moment où il avait tiré sur le travesti. Alors, je vous donne lecture de l'expertise réalisée à l'époque. L'expert n'avait décelé aucun trouble psychiatrique. Il fait état dans son rapport, je cite, d'une instabilité caractérielle et d'une anxiété permanente à tous les niveaux de sa vie, aussi bien dans le travail que dans sa vie personnelle. Angoisse, dit l'expert, qui affectait son sommeil et expliquait son besoin d'être armé. Et le top de sa froideur, c'est quand il se tourne vers les parents de la réceptionniste, Michel Fabrice. « Moi, je pense que votre fille serait encore vivante, si vous l'aviez mieux élevée. » Dans ces conditions, il n'y a plus à tortiller. Jean-Baptiste Hennequin est condamné à la peine maximale, réclusion à perpétuité, avec une peine de sûreté de 22 ans. Il est mort en 2021, en prison, à l'âge de 86 ans.
Vous avez aimé cette histoire ? Christophe Ondelatte vous propose de la débriefer avec un invité dans un podcast d'ores et déjà disponible sur votre application.